Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire, une émission au cours de laquelle nous allons parler du dernier roman de notre invité, sorti je crois au mois d'octobre dernier.
Août, c'est la rentrée littéraire, maintenant elle sort en août.
Catherine Cusset, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être devant notre micro. Alors ce dernier roman a pour titre « La définition du bonheur ». Je vous présente un petit peu à partir... J'ai pas fait de recherche approfondie, parce qu'après tout, s'il y a des éléments à ajouter, c'est vous qui compléterez la biographie. Est-ce que je peux dire que vous êtes née à Paris ? Est-ce qu'on peut dire l'année de votre naissance ?
Oh là là, vous savez, avec les femmes, à partir d'un moment, on ne peut plus. Ce n'est plus possible.
Vous vivez à New York ?
J'ai vécu à New York 30 ans. Je viens de déménager de New York en mai dernier.
Alors, vous avez à votre actif de nombreux romans. La blouse roumaine, c'est le premier roman. En toute innocence, à vous jouir, que j'avais lu en son temps.
Dans les années 90.
Le problème avec Jane, qui a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle, tout comme d'ailleurs votre romancier dans votre dernier roman a été, je crois, couronné d'un prix des lectrices de Elle. Il y a La haine de la famille, Confession d'une radine, Amour transversal, Un brillant avenir, prix Goncourt des lycéens 2008. Et vous êtes traduite dans une quinzaine de langues.
C'est pas fini. Après, il y a encore donc Indigo, mais surtout l'autre qu'on adorait. Et vie de David Hockney.
Bien.
Et je suis traduite dans 22 langues.
Merci pour ces précisions.
Parce que ça a progressé depuis La blouse roumaine.
Concernant les éléments biographiques, y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez ajouter ?
Oh là.
Alors, de retour en France maintenant, après 30 ans de vie, à New York. On retrouve New York aussi. Paris et New York sont présentes dans votre dernier roman. Qui déroule les parcours de deux femmes, différentes les unes des autres, assez fascinantes. J'avoue que j'ai beaucoup d'admiration et de sympathie avec Clarisse.
Oui.
Et puis l'autre jeune femme, c'est Ève. Alors, Clarisse, c'est elle qui ouvre le roman parce qu'elle a vécu à l'âge de 16 ans, durant l'été 1979, elle est à Hyères, auprès de sa marraine de cœur, qui gère avec son mari un camp de vacances. C'est une jeune fille qui lit Balzac, qui semble curieuse intellectuellement, curieuse aussi des premiers émois amoureux. Elle rencontre un jeune homme de 19 ans, étudiant en médecine, qui finalement va lui faire beaucoup de tort alors qu'il prétend l'initier à l'amour.
Oui, c'est effectivement cet épisode qui donne son titre au roman, puisque Clarisse a 16 ans. Donc, déjà, le roman donc, suit mes deux personnages, ces deux femmes, de l'adolescence jusqu'à la fin de la cinquantaine, sur 40 ans de vie. Donc on reste pas à l'adolescence, mais il y a ce passage important pour Clarisse à 16 ans, où dans ce club de vacances, elle tombe amoureuse de ce garçon et elle se trouve sur sa mobylette. Une nuit, l'air est tiède, la brise caresse ses épaules, elle enlace la taille de ce garçon qu'elle embrassait la veille pour la première fois et elle pense que c'est ça la définition du bonheur.
Et le paragraphe exact, Catherine Cusset, c'est « Avoir 16 ans, foncer dans la nuit calme sur une route déserte et sentir la brise tiède caresser vos épaules tout en enlaçant la taille d'un garçon qui vous a embrassé hier pour la première fois, la joue appuyée contre son dos, ce devait être la définition du bonheur. » C'est ce qui donne son titre au roman.
C'est ce qui donne, voilà, j'aime beaucoup qu'un titre de roman sorte du livre. Alors c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions sur ce titre parce que on dirait que c'est un programme, la définition du bonheur, là avec cet article défini comme si on avait une que j'allais définir dans le roman. Donc déjà je dois vous dire tout de suite, c'est pas le cas. Il y a autant de définitions du bonheur qu'il y a de personnages. Dans mon roman il y en a déjà quand même deux personnages principaux et elles ne vivent pas la vie et ils ne conçoivent pas le bonheur de la même manière. Et puis dans le cas de Clarisse, c'est un moment de bonheur réel qu'elle vit à ce moment-là, très intense, très sensuel, un bonheur qu'on éprouve à 16 ans ou à tout autre âge, hein. C'est quand même toujours la magie du moment où on est avec quelqu'un dont on est tombé amoureux. Et puis là, dans le cas de Clarisse, ça va être suivi d'une violence, que je ne vais pas raconter là maintenant, mais donc un épisode de violence où finalement cette définition du bonheur se retourne un peu en son contraire, en antiphrase. Et c'est vrai que, pourquoi est-ce que j'ai appelé le roman La définition du bonheur ? C'était une référence à Clarisse, parce que chez Clarisse, le bonheur est souvent suivi de la chute, souvent suivi de quelque chose de très douloureux, ce qui n'empêche pas le bonheur d'être vécu quand même intensément, mais il se paie.
Alors, elle vit une succession de bonheur à travers différentes rencontres avec, oui, des amants, quand bien même elle va avoir une vie de femme mariée avec Hendrik, qui est quand même un sale type.
Oui.
Qui est très déplaisant. Elle le rencontre très jeune, dans un cadre exotique, c'est en Asie, puisqu'elle est folle de l'Asie, de ses coutumes, de ses odeurs, mmh, de ses paysages. Elle rencontre ce jeune homme, qui est un très 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 bel homme.
Très beau jeune homme. Ça joue un rôle quand même. Hein. Clarisse est amoureuse de la beauté des hommes, de la beauté. Elle est amoureuse de la beauté et amoureuse de la beauté des hommes. Et le corps et le visage de ce garçon sont juste sublimes. Et évidemment, quand elle le rencontre sur ce bateau en Thaïlande, elle apprend tout de suite qu'il a déjà une petite amie. Enfin, c'est l'homme impossible. Et pourtant, il va débarquer le soir même.
Et imprudemment, elle décrète « c'est l'homme de ma vie ». Alors qu'elle sait que... Elle est censée retrouver une petite amie.
Mais elle a cette sorte de vision intérieure, cette espèce d'intuition comme ça. C'est l'homme de ma vie. Et en même temps, elle ne l'épouse pas du tout dans l'inconscience. Quand elle va l'épouser 2 ans après, ce n'est pas du tout dans l'inconscience et l'incompréhension de qui il est. Hein. Elle a eu le temps de comprendre que cet homme-là était pas agréable, radin, pas généreux, qui pouvait être méchant, qui pouvait la maltraiter.
L'humilier.
Donc elle a eu le temps de voir tout ça, et c'est peut-être même la raison, c'est compliqué, pourquoi l'épouse-t-elle, hein. On peut se poser la question, pourquoi elle va épouser un homme dont elle sent qu'ils sont incompatibles, ils n'ont pas du tout la même façon de voyager. Elle est tout le temps dans la digression, dans la fantaisie, elle s'arrête, elle veut rencontrer les gens. Lui, il a l'œil sur la montre, il faut qu'il mange à heure fixe, sinon son humeur chute immédiatement. Et elle l'épouse en fait parce que elle est convaincue, comme il la maltraite verbalement, qu'il n'est vraiment pas gentil avec elle, elle a le sentiment qu'il ne se trompe pas sur elle, qu'il voit très bien qui elle est, qu'il voit tous ses défauts, qu'il sait qui elle est. Et c'est quelque part pour Clarisse rassurant. Et rassurant parce qu'elle se dit que s'il sait qui elle est, s'il ne se trompe pas sur elle, et qu'en plus il est nordique et qu'il est fiable, il ne l'abandonnera pas. Et c'est quand même Clarisse, la fille d'un homme qui a quitté sa mère quand elle avait 2 ans. Quand Clarisse avait 2 ans. Donc elle choisit un homme dont elle pense qu'il sera fiable et qu'il restera là et qu'il ne l'abandonnera pas. Et je dois dire que cette question de l'abandon, elle est au cœur de mon roman.
Oui, elle a peur du rejet, chez, oui, Clarisse surtout. Elle a la hantise du
de
rejet.
De l'abandon surtout.
Alors, oui, elle se sent souvent coupable ou fautive. Coupable et fautive.
Oui.
Jusqu'au jour où elle comprend en fait.
Oui, et je crois que c'est dans le personnage de Clarisse ce qui l'habite, mais ce qui c'est pas la seule, c'est tellement courant chez les femmes, le sentiment de culpabilité. C'est très très fréquent, je crois, plus chez les femmes que chez les hommes, je sais pas pourquoi. Nous nous sentons plus facilement coupables des mauvaises choses qui nous arrivent. D'ailleurs, que ce soit professionnellement ou amoureusement, si quelque chose ne va pas, c'est en général notre faute, à nous les femmes. Et là, alors que les hommes, je crois, sont beaucoup plus prêts à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est une généralité ce que je dis, mais je pense qu'il y a quand même de la vérité là-dedans. Et donc Clarisse, les hommes, quand elle est abandonnée par les hommes de sa vie, avec Hendrik c'est particulier, mais le deuxième homme de sa vie qui est François, qui est un homme merveilleux, qui a quand même une faille, qu'elle découvre pour le coup plus tard, et quand il la quitte, elle pense que c'est sa faute, elle pense qu'elle a pas su dire les mots qu'il aurait retenu, elle a pas su le garder, elle a pas su être généreuse, elle s'impute la responsabilité de cet échec, jusqu'à en effet ce qu'elle entend d'une émission à la radio sur la structure de l'abandon.
Voilà, sur France Inter. Mmh. Et en fin de compte, elle a aussi la haine de soi, Mais Clarisse n'a pas été aidée parce qu'elle a grandi avec une mère, donc Irina, qui est une mère alcoolique, un peu démente parfois, mais qui peut se révéler assez exceptionnelle, puisque c'est elle qui va accompagner dans l'agonie Mehdi, le meilleur ami de Clarisse,
qui
va
mourir
du sida, effectivement.
Oui, oui. Oui, c'est le personnage donc, d'Irina, la mère de Clarisse, c'est compliqué. Elle est, bon, c'est un personnage très secondaire dans mon roman. On la voit apparaître à travers les pensées et les souvenirs de Clarisse. Mais c'est une femme donc abandonnée, qui ne s'est pas remariée, qui a juste vécu seule avec sa fille unique, et qui prononce à un moment cette phrase très importante, parce que j'ai failli la choisir comme titre pour mon roman, mais c'était choisir la moitié vide du verre, et il y a toujours la moitié vide et la moitié pleine. Et cette phrase que prononce Irina, c'est à un moment, c'est à sa fille, et qu'elle dit à sa fille, c'est « toi aussi tu vieilliras seule ».
Oui.
Et elle ne le dit pas, c'est une phrase horrible, mais elle ne le dit pas avec méchanceté. Je crois qu'elle le dit avec la hantise de la mère qui redoute de voir son enfant subir le même destin.
Il faut dire que c'est pas pour défendre la mère de Clarisse, parce qu'elle n'est pas toujours défendable. D'ailleurs, à 16 ans, lorsque Clarisse est violée par Samuel dans ce bungalow ailleurs, elle tait cette violence et ce viol parce que elle sait ou elle pense que si elle avouait à sa mère qu'elle avait été violée par des garçons, sa mère lui aurait dit « Tu l'as bien cherché, ma fille ».
Oui, oui, oui.
Et d'ailleurs, sa mère n'a pas de paroles très gentilles. C'est intéressant aussi parce qu'il est aussi question de maternité. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui. Mais la mère lui dit « T'es nul, t'es moche, tu penses qu'à te faire baiser comme une pute hein. ». Enfin,
mais ça, c'est parce que ça, c'est quand Clarisse est adolescente. Le rapport de la mère et de la fille quand la fille est adolescente, je crois que pour toutes les femmes qui ont eu des filles adolescentes, les paroles peuvent être violentes parfois. Oui. Hein. C'est pas des paroles qui expriment nécessairement les sentiments qu'on a pour son enfant. C'est une adolescence difficile avec une mère qui ne supporte pas la liberté de sa fille, mais qui surtout, je crois, exprime sa peur pour sa fille à travers des termes violents. Et aussi une mère alcoolique, donc ce sont les paroles qu'elle dit sous l'effet de l'alcool.
Puisqu'on parle de mère, Irina a perdu la sienne dans des conditions terribles. Il faut dire que Clarisse est juive.
Mm-hmm.
Pourquoi vous avez fait de Clarisse une jeune femme juive et Ève, l'autre jeune femme, vient d'un milieu très bourgeois, très français, très catholique.
Oui. Ben c'est vrai qu'il y a, dans un roman, on a tendance parfois à simplifier un peu la réalité. Moi, je suis demi-catholique et demi-juive, donc je porte les deux identités en moi. Clarisse, en effet, c'est la juive et qui a grandi. C'est pour ça qu'il y a toujours ce sentiment d'exclusion chez elle. Elle grandit fille unique dans cette France catholique des années 70, à l'école, petite fille juive, fille d'une juive étrangère russe qui parle avec un accent. Donc elle est d'une mère divorcée. Elle a dès le départ un sentiment d'exclusion. Alors que Ève, dont le destin est si différent de celui de Clarisse, elle grandit dans une famille nombreuse, avec en effet des parents catholiques, et une famille très structurée, très solide, une famille normale, on pourrait dire une famille normale.
Très intellectuelle, la famille père ingénieur.
Oui, la mère est professeure d'histoire. Et d'ailleurs, quelque part, le futur, l'avenir d'Ève est programmé. Sa mère pense que le seul métier digne de sa fille, c'est qu'elle devienne professeure également. Elle ne peut pas envisager ce que va faire ensuite sa fille, qui est de devenir cuisinière.
Oui. Ève, c'est l'autre personnage féminin qui est agrégé d'être classique, qui par amour suit un Américain d'origine polonaise, Paul. Donc de l'autre côté, elle vivote, enfin elle a du mal à être reconnue comme enseignante, et puis elle se lancera un peu en auto-entrepreneur d'une certaine manière à faire de la cuisine.
Non, c'est pas
française.
Qu'elle a du mal à être reconnue comme enseignante, c'est qu'elle a découvert, parce qu'à un moment ils sont partis vivre à Varsovie avec son mari et elle. Vous savez, dans une vie, on a assez rarement des phases de liberté, des bulles, des parenthèses en fait. Et je crois que pour tous les jeunes couples qui se retrouvent avec des enfants et un travail, ils sont sur des rails, et c'est des rails qui traversent souvent 20 ans de vie, 30, parfois plus même. Et c'est très difficile de retrouver de la liberté. Et Ève et Paul ont eu la chance, bon, avant d'avoir des enfants, ils sont partis à Varsovie. Donc Paul est d'origine polonaise, c'est sa mère qui est rabbin d'origine polonaise juive. Et ils sont partis là-bas où Paul avait pris un travail, il était journaliste là-bas. Et là, Ève s'est retrouvée coupée de tout, coupée de son monde, dans une langue qu'elle ne parlait pas. Et c'est là qu'elle a commencé à cuisiner des gâteaux. Vendu par un café polonais, et elle s'est aperçue qu'elle adorait ça. C'est donc tout à fait par hasard, le hasard a fait rentrer dans sa vie un élément qu'elle sans doute, peut-être elle n'aurait jamais découvert. Et de retour aux États-Unis, la chance des États-Unis, il y a aussi ça qu'on a moins souvent en France, c'est qu'il est plus facile aux États-Unis de changer de travail, de changer de voie, de se reconvertir, de commencer quelque chose de tout à fait différent.
Alors Catherine Cusset, après cette éloge nuancé des États-Unis.
C'est vrai hein, que c'est quand même un pays où on peut recommencer les choses.
Oui.
On peut, à 40 ans, reprendre des études. C'est beaucoup plus rare en France.
Je rappelle que c'est Catherine Cusset qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radion pour parler de son dernier roman, La définition du bonheur, disponible donc en librairie aux éditions Gallimard. On marque un premier intermède musical et on se retrouve juste après avec vous, bien évidemment.
Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin, et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Il y aura des jours avec, et il y aura des jours sans, bien moins de victoires que d'échecs, malheureusement, fatalement. Et sachez qu'il y aura des peines, et des après tout, c'est comme ça, parfois des joies qui nous emmènent dans des lieux qu'on ne connaît pas. Il y aura de bonnes surprises et des mauvaises évidemment, et sûrement de jolies méprises, des grains de folie par moment. Sachez que c'est l'espoir qui gagne et qui terrasse l'indifférence. C'est lui qui déplace des montagnes, c'est lui qui provoque la chance, et c'est l'envie et non la rage qui doit tracer votre chemin. Il doit y avoir dans vos bagages du courage pour vos lendemains. Sachez qu'il faut respecter l'autre et que votre cœur lui pardonne sans jamais rejeter la faute. Qu'il faut donner plus qu'on vous donne et qu'il faut laisser le mensonge au lâche, au faible, à l'apeuré. Et lorsque le chagrin vous ronge, il faut savoir vous relever. Sachez qu'il faut vivre vos rêves et qu'il faut choisir l'aventure. Qu'il faut aider celui qui crève, celui pour qui tout est plus dur. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez et qui vous êtes, et ne jamais s'abandonner quand c'est le pire qui se répète. Sachez aussi qu'il ne faut pas succomber à leurs invectives. Il faut rester honnête et droit sans être de ceux qui les suivent. Et peu importe où vous allez, quels que soient vos choix, vos désirs, oui, peu importe qui vous aimez, tant qu'on ne vous fait pas souffrir. Sachez aussi, quoi qu'il advienne, quel que soit l'endroit ou l'instant, c'est pour toujours que je vous aime et que je suis là, mes enfants.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous retrouvons notre invitée Catherine Cusset qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radio pour son dernier roman, La définition du bonheur, paru chez Gallimard, éditeur qui vous suit fidèlement depuis...
Et qui me donne beaucoup de bonheur depuis 30 ans.
Je voudrais qu'on revienne d'ailleurs sur les mères, parce que finalement Clarisse, vos deux héroïnes, Clarisse et Ève, vont devenir maman. Je voudrais vous demander, Catherine Cusset, qu'est-ce que ça veut dire être une bonne mère ? Est-ce qu'il y a une bonne mère dans le roman ?
Ouh là 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 là, la question que vous me posez, c'est évidemment, ce sera un jour pour moi le sujet d'un livre. Mais c'est en tout cas le premier de mes romans, là, La définition du bonheur, c'est mon 15e roman, et je pense que c'est le premier de mes romans où vraiment je parle de la maternité. Elle joue un rôle important puisque Clarisse est mère de 3 garçons, Ève est mère de 2 filles, Clarisse, mère de trois garçons qu'elle va éduquer seule, puisque son mari l'a quittée pour sa meilleure amie, alors que le dernier était encore tout petit, il avait deux ans et demi, trois ans. Et Ève, par contre, dans cette famille, mariée avec Paul, et ils éduquent ensemble leurs deux filles.
Qu'est-ce qu'être une bonne mère? Vous savez, Catherine, tu sais,
je pense que malheureusement, je ne pourrais pas répondre, donner une définition de la bonne mère à l'instant. C'est très, très difficile d'être mère et d'être une bonne mère. C'est vraiment... pour moi, une bonne mère, c'est... Si je vous répondais, je dirais c'est une mère qui fait confiance à son enfant. C'est ça, une bonne mère.
Parce que Clarisse, elle a le sentiment, avec ses trois garçons, qu'elle est nulle, qu'elle a été une mauvaise mère.
Oui, mais de ce point de vue-là, peut-être que Clarisse est même meilleure mère que Ève, parce que Ève est la plus anxieuse des deux en tant que mère. Mais Clarisse, qu'est-ce qui lui donne ce sentiment-là d'être, de ne pas avoir été une bonne mère? C'est simplement que tous les hommes de sa vie partent, et ses garçons aussi. Ses garçons partent vivre, l'aîné part aux États-Unis, le plus jeune part vivre en Jamaïque, et celui du milieu, c'est celui qui reste en France mais qui a les plus grandes difficultés, qui est le garçon fragile dont elle a tellement peur à un moment qu'il se suicide.
Et qui ressemble le plus à Clarisse finalement.
Oui, le plus fragile, celui qui a des hauts et des bas, qui est le plus exposé, le plus abandonné aussi.
Tandis que notre Ève à New York, avec son journaliste de mari, finalement, elle n'a pas tellement de difficultés avec ses deux filles.
Non, et j'en parle assez peu, hein, finalement. Je parle de ses filles, je ne parle pas des mêmes époques, en fait, pour les enfants. Pour Ève, je parle de la naissance, évidemment, de son deuxième enfant, puisque c'est le sujet d'un chapitre. Et cette naissance qu'elle a voulu garder sous son contrôle, donc elle veut absolument aller à l'hôpital le plus tard possible pour ne pas avoir une naissance médicalisée. Ève, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, donc elle veut garder les choses, elle veut pas lâcher prise. Et puis je parle aussi de ce moment quand elle a l'approche de la quarantaine, parce que Ève aussi, elle a parfois de petits écarts quand même, donc il y a le désir, la question du désir dans un couple se pose souvent, hein, et je crois que c'est une chose très fréquente qu'un couple marié où les deux, l'homme et la femme, s'aiment, où il y a quand même quelque part un désir qui va ailleurs, et ça va être le cas d'Ève alors qu'elle a ses deux filles qui ont 7 ans et 4 ans, et ce qui va finalement mettre fin à cette liaison qu'elle a, c'est la maladie très grave de sa fille de 7 ans. Donc je crois que peut-être dans la définition du bonheur, si je dis quelque chose sur les femmes et les mères, c'est que quand même dans une situation où les enfants sont en danger, il me semble que les femmes sont d'abord des mères. Mais je ne sais pas si... C'est peut-être pas le cas de toutes les femmes, et c'est peut-être une définition non féministe de la maternité, mais je ne peux pas le penser autrement. Je pense qu'il y a toujours quand même un cordon ombilical entre une femme et ses enfants. Et si l'enfant est en danger, après l'enfant, il s'agit de le laisser partir, évidemment, mais si l'enfant est en danger, et c'est le cas de Clarisse, hein, quand elle se retrouve avec ses trois fils, et qu'elle est tellement meurtrie par l'abandon de ce deuxième grand amour qui est François, que ses fils adoraient, et que ses fils sont tellement affectés, tellement meurtris eux aussi, Clarisse se jure de ne plus jamais ramener d'homme chez elle tant qu'elle aura ses fils à la maison. Donc elle fait un choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'homme dans sa vie, mais elle ne les ramènera pas chez elle.
Je voudrais qu'on revienne sur la maternité, parce qu'il y a la scène de l'accouchement de Ève. Donc nous sommes à New York, Ève, pareil, attend un peu la dernière minute pour aller à la maternité, puisqu'elle veut tout contrôler, tout gérer. Son mari Paul, il est émouvant, parce qu'en fait, il va connaître... Alors que Ève est dans le taxi, qu'elle perd les os, il y a également sa belle-mère. Donc,
très familiale.
Et alors là, il y a une scène qui est à la fois émouvante et drôle, terriblement drôle, l'accouchement de Ève dans le taxi.
Pas drôle pour tout le monde, parce que si vous ne savez pas ce qui va se passer, d'ailleurs je vous souhaitais que le lecteur ait ce désir, bon je ne devrais pas le trahir, mais c'est assez dramatique, ça va être un accouchement, ça peut être tout à fait dramatique, et cette naissance ne devait pas du tout se produire comme ça, et c'est vrai que Paul se retrouve dans le rôle du mari qui assure, quoi, qui doit tout gérer.
Qui va connaître la plus grande peur de sa vie à ce moment-là.
La plus grande peur de sa vie.
Alors que la belle-mère rate, elle, un petit peu, je vous cite, le spectacle exceptionnel d'une femme donnant la vie.
Oui, elle sait pas du tout ce qui s'est passé. À un moment, elle dit à son fils « Mais dis-moi, Paul, si tu crois qu'elle va accoucher dans le taxi ?» Il lui répond « Maman, le bébé est né. »
Mais juste le passage où effectivement Paul est sur la banquette arrière avec Ève qui perd les os, qui dit tout d'un coup « Aïe, j'ai envie de faire caca !» Finalement, le bébé arrive, il faut enlever le collant. Alors,
il n'y arrive pas.
Voilà, c'est ça. Et c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça à la fois émouvant et ça m'a fait rire. C'était pas une scène censée être drôle. Moi, je trouve qu'elle est drôle. Par exemple, accident, attrapé, bébé sort très vite, très glissant. Comme un joueur de baseball prêt à rattraper la balle, Paul tendit les deux mains entre les jambes d'Ève. Quelque chose qui ressemblait à un sac en plastique gris tomba sur ses paumes ouvertes. « Tiens, se dit-il, on n'a pas fabriqué un bébé, mais un sac poubelle. » C'est drôle tout de même.
Oui. Parce qu'il est, dans une situation... où il est en mode pilote automatique, il a perdu les sentiments, il ne sent plus rien, il est dans la panique en fait, dans la panique on est glacé, on est figé, on est paralysé. Alors il n'est pas paralysé au niveau de l'action parce qu'il se rappelle qu'il doit agir, et il se rappelle ce qu'a dit cette femme qui donnait un cours d'accouchement auquel ils ont assisté à un moment, et étrangement Ève avait posé la question, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas le temps d'arriver à l'hôpital, et cette femme lui avait répondu, écoutez madame, ça n'arrive jamais aujourd'hui à New York, ne vous inquiétez pas. Et elle avait dit, mais quand même, comme si elle avait déjà l'instinct qu'elle avait anticipé. Et la femme dit, écoutez, un bébé à terme, il est en bonne santé. Il y a un danger, c'est qu'il sort très vite, ça glisse très très vite. Et donc les seuls accidents de bébés comme ça qui sont nés, pas à l'hôpital, c'est qu'ils sont tombés par terre, oui, avant qu'on ait le temps de les rattraper. Et donc c'est cette pensée qu'a Paul qui met ses mains là, et qui rattrape là, c'est tout ce qui sort à ce moment-là de sa femme. Et effectivement, c'est sans doute assez drôle, mais bon, c'est plein d'émotions aussi en même temps.
Et la pauvre belle-mère, donc Rivka, qui elle a fait arrêter le taxi, appelle une maternité qui lui demande « Mais vous êtes où je ne sais plus, Houston, oui, East ou Houston West ?» Et elle s'agace. Et finalement, quand elle remonte dans le taxi,
cette femme
le bébé est là et elle a raté l'événement.
Oui. Et en plus, elle qui est d'une patience à toute épreuve. Enfin, voilà, cet accouchement effectivement fait ressortir chez chacun une nature un peu différente de ce qu'ils sont d'habitude, et c'est pour ça que j'avais choisi cette scène, hein. C'est tout à coup, c'est une scène, c'est pas seulement la naissance dramatique d'un bébé dans un taxi, c'est la redéfinition des rapports dans cette famille qui se passe à travers cette scène. L'amour entre Ève et Paul, je voulais une démonstration, une preuve de cet amour, de cette confiance entre eux, et puis le rapport compliqué de Ève et de sa belle-mère polonaise, qui est cette femme admirable pour le coup, qui elle aussi est un bébé rescapé du ghetto de Varsovie, jeté par-dessus le mur par ses parents, un couple catholique de l'autre côté du mur, mais ce couple aussi digne a toujours avoué à cette jeune fille qu'elle était juive, qu'elle venait, c'était leur fille unique, ils n'avaient pas d'enfant et ils lui ont quand même dit qu'elle n'était pas leur fille. Et cette femme, donc elle est partie aux États-Unis faire des études et elle est devenue rabbin. Et elle a divorcé à 40 ans, elle a deux enfants, enfin elle est tout à fait admirable cette Rivka, mais Ève, comme très souvent les belles filles et les belles mères, a beaucoup de mal à supporter sa belle-mère admirable.
Qui est un peu envahissante, mais qui est aussi très aimée par la première petite fille Ève et Paul. Et puis, il y a cette réplique extrêmement drôle donc de Rivka au moment où le taxi est allé jusqu'à une maternité, parce que bon, finalement, pour Ève, elle échappe à la mort. Il y a quand même quelques complications. Ouais. Heureusement, ouais, elle est sauvée les mains d'une obstétricienne, etc. Il s'agit de payer le taxi et de donner un pourboire. Nous sommes à New York. Et Rivka dit à son fils, Paul, je n'ai que 60 dollars. Ce n'est pas beaucoup pour l'état dans lequel on laisse le taxi. Tu as un peu d'argent. C'est drôle. J'aimerais qu'on revienne sur le couple, Ève et Paul. Couple, j'allais dire régulier, vie un peu paisible. Même si Paul... Alors là, Catherine Cusset, j'ai l'impression... que vous laissez entendre que les hommes sont happés par la réussite professionnelle et qu'ils sont prêts à un peu négliger le fait d'entretenir l'amour du couple.
Alors,
c'est
les
un
hommes
peu ça tout de même,
et les
non
femmes, hein, c'est pas quelque chose... C'est tout à fait le cas d'Ève aussi. Ève, elle est happée par sa réussite professionnelle.
Oui.
De cuisinière, elle devient traiteur, ça marche très très
oui,
bien.
Oui, elle a des désirs, alors que Paul, lui... Enfin, à un moment dans le roman, il est tout de même question que pendant 2 ans et demi... Ève et Paul n'ont pas fait l'amour ensemble.
Mais c'est vrai, mais c'est pas seulement.
Incroyable.
Mais c'est pas seulement Paul, parce que dans la situation, il y a eu une série de deuils qui touchaient Paul, mais ensuite Ève a eu un cancer. Donc quand même, il y a et elle le dit qu'elle en a perdu le désir. C'est elle qui a perdu son désir en fait. Hein. Donc c'est justement la question qui se pose dans ce roman. Hein. C'est une des questions qui se pose puisqu'on traverse 40 ans de vie dans la définition du bonheur, qu'on approche de la fin de la cinquantaine, cette décennie de la cinquantaine. La question que j'ai posée à travers le personnage d'Ève et le personnage de Clarisse, c'est celle du vieillissement, c'est celle du désir. Du corps, évidemment. Qu'en est-il de ce corps de femme qui vieillit? Qu'en est-il du désir? Et autant Clarisse garde son désir et elle a des amants à 50, 55 ans, 58 ans. Elle a un amant à Paris, un amant à New York. Elle est toujours dans la séduction. Ève, quand elle va la rencontrer, la trouve rayonnante et extrêmement belle, alors que Clarisse ne se perçoit pas comme belle, mais à travers les yeux d'Ève, on va voir qu'elle est belle et qu'elle est pleine de séduction et de charme. Ève, elle... Eh bien oui, elle a perdu son désir, cette femme qui est toujours dans le contrôle, qui a tellement bien réussi tellement de choses dans sa vie, découvre à la cinquantaine qu'elle a du mal à lâcher prise. Et pour sentir du désir, pour éprouver du plaisir, en particulier sexuel, il faut arriver à lâcher prise. Et voilà, c'est un peu la question qui se pose pour Ève.
Alors, Clarisse a besoin absolument d'amants dans sa vie.
Oui.
Sans les amants, elle a l'impression qu'elle n'existe pas. Et elle se sent très fragilisée parce que ça la renvoie à sa solitude. Et elle pense que sa solitude, en vieillissant, pourrait être liée éventuellement à un corps qui susciterait moins de désir. Et finalement, c'est une gourmande. Moi, je l'ai beaucoup aimée, Clarisse. Il faut dire que le roman est en deux parties. Il y a tout de même, on va dire, trois quarts qui sont très largement consacrés à la vie de Clarisse. Mais parce qu'elle se retrouve quand même à... Quel âge, Catherine Cusset? Elle est avec le jeune homme de 24 ans.
55 ans.
Elle a 55 ans et elle a un amant qui s'appelle Jean-Baptiste Cœur Aimable, qui est un haïtien de 24 ans. Et elle apprend... Enfin, finalement, elle culpabilise encore en se disant, finalement, j'ai un amant qui a 5 ans de moins que mon plus grand-fils, quoi.
Oui.
Et elle a, là encore, le sentiment un petit peu de honte.
Mais elle est double, hein, Clarisse. C'est-à-dire qu'elle est vraiment divisée entre, d'un côté, ce sentiment de honte et de culpabilité qui l'habite, et ce miroir obscur, cette faille en elle, cette hantise de la solitude. Et ce qui va se passer dans cet épisode dont vous parlez, c'est à nouveau quelque chose de dur et de violent qui va lui renvoyer cette image de femme qui vieillit, pathétique, accrochée à un jeune homme. Elle a horreur de cette image-là. Et à côté de ça, il y a aussi une autre Clarisse qui est la même, hein, et qui est cette Clarisse qui est dans la soif de vivre, dans une énergie qui se renouvelle sans cesse, dans un appétit, cette Clarisse gourmande dont vous parlez, qui a une très grande force. Donc vous voyez, elle a les deux en elle. Elle a la force et la faiblesse, quoi.
Enfin, elle n'a pas beaucoup...
L'amour de la vie et la haine de soi, enfin, elle a les deux, quoi.
Elle n'a pas beaucoup de chance non plus, parce que finalement... les hommes qui viennent à elle pour leur plaisir sexuel et non pas tellement pour partager quelque chose avec elle.
C'était pas le cas de François, et puis il y en a d'autres, j'ai pas tout raconté, hein. Elle a beaucoup d'hommes dans sa vie, j'ai parfois eu des ellipses, mais François, c'était vraiment un vrai amour, simplement, elle est tombée sur un homme qui lui aussi avait une faille, peut-être parce qu'elle a cette faille... sa fragilité attire aussi des fragilités, hein. C'est évidemment le cas de Boris dont elle parle à la fin, ce russe qui n'est pas si jeune, hein. Il a l'approche de la quarantaine, mais qui est ce dont elle parle comme d'un pauvre gosse cabossé qui n'a rien, qui est encore plus cabossé qu'elle,
qui cabosse aussi un peu Clarisse, au sens physique du terme. Et en fin de compte, ce qui est intéressant par rapport aussi à la jouissance, c'est que vous racontez qu'il y a des hommes pour qui l'acte sexuel est un moment de détente, et puis pour d'autres, c'est le cas de Paul, le mari de Ève à New York, pour Paul, finalement, l'acte sexuel est une pression supplémentaire. Oui. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il faut que les hommes lisent votre roman. Mais j'ai l'impression tout de même, Catherine Cusset, que seule une femme pouvait parler avec autant de finesse, d'intimité aussi, tout de même du désir des femmes. Je ne pense pas qu'un homme aurait pu écrire le roman de Clarisse et le récit d'Ève.
Oui, cette question du vieillissement, comme ça, de l'âge qui vient. Enfin, et encore, je ne parle pas de la vieillesse, hein, je parle uniquement du vieillissement, c'est-à-dire après la ménopause, qui se passe dans le corps d'une femme après la ménopause. Mais c'est très juste ce que vous dites à propos de de Paul, quoi, qui est, c'est vraiment des sujets très tabous encore, dont on parle très très peu. Et en effet, pour Paul, le désir, pourquoi est-ce que c'est une pression, le désir? Parce qu'il y a en lui, c'est peut-être trop le fils de sa mère, c'est le garçon qui veut satisfaire les femmes. Et quand on veut comme ça satisfaire les femmes, forcément il y a un sens du devoir. Et le sens du devoir ne va pas toujours de pair avec le plaisir. C'est pas à son plaisir qu'il pense, Paul. C'est plutôt à celui de sa femme.
Il est délicat, effectivement.
C'est un inhibant étrange. Finalement, quand on pense à son propre plaisir, on est peut-être plus dans le plaisir que quand on pense beaucoup à celui de l'autre ou à la peur de déplaire à l'autre. En tout cas, c'est un mari aimant. Un mari aimant. Et je crois aussi que ce que j'essaye de dire, c'est que la sexualité n'est peut-être pas le seul fondement du couple. C'était le couple d'Ève et de Paul est un couple pour qui, au départ, il y a une relation sexuelle très intense. Ils se sont vraiment trouvés épousés par amour, par désir physique et par amour, parce qu'elle était fiancée à un Français qu'elle a quitté pour Paul. Mais, donc, au fur et à mesure que le temps passe et qu'ils ont la cinquantaine, et après toutes ces épreuves de deuil et de cancer et la maladie, ils n'ont pas fait l'amour depuis 2 ans et demi. Eh bien, malgré cela, elle ne doute pas de leur amour. Elle ne doute pas que le désir est là quelque part, qu'il faut juste aller le retrouver. Il se cache quelque part. Et elle espère... Vous voyez, c'est pas du tout comme on aurait tendance à dire « Ah ben bon, ils font plus l'amour, voilà, donc ça veut dire que c'est terminé, c'est fini, qu'ils vont voir ailleurs, et qu'ils vont... S'ils se séparent pas, c'est peut-être pour des raisons économiques. » C'est vraiment pas ça la question. Il y a un vrai amour qui est un amour de la construction, de la confiance... du rapport à deux qui traverse des épreuves, et dans ces épreuves il peut y avoir la perte du désir et la perte du plaisir à un certain moment.
Alors à New York, Ève, d'ailleurs le choix du prénom c'est intéressant, Ève qui vient d'une famille catholique, avec, on imagine que la culture a été assez forte.
Et vous savez qu'au départ, absolument sans faire exprès, j'avais appelé son mari Adam. Quelqu'un m'a dit, c'est quand même un peu lourd. Ça. J'ai dit, aïe, je n'ai pas remarqué.
Et Ève va rencontrer, en amenant ses enfants à l'école, bon, elle repère un jour un homme assez joli, un Français lui aussi, qui vient chercher son petit garçon, Lucien. Et là, effectivement, Ève a du désir pour cet homme qui, de surcroît, est écrivain. C'est un romancier. Alors en plus, on pourrait penser que les romanciers...
Alors elle ne le formule pas, elle ne se le formule pas comme du désir. C'est juste qu'elle rencontre ce jeune homme et bon, il lui propose c'est un peu... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le statut symbolique du romancier, parce qu'elle ne sait pas qui il est, elle trouve qu'il est juste très jeune. Elle ne l'a jamais vu dans les parents de l'école, en effet, il est là que de passage pour quelques mois, elle connaît tout le monde dans l'école. Et puis elle le rencontre par hasard à la maison française de NYU, où il interviewe Jean Eschnoz. Et elle découvre qu'il est écrivain, et c'est vrai qu'elle est très étonnée, mais surtout très étonnée parce qu'il la remarque. Elle est modeste, Ève, et elle ne se pense pas du tout comme jolie ou remarquable en quelque sens que ce soit. Donc elle est très étonnée d'être remarquée par lui, et puis il lui propose après de boire un café, et à chaque fois elle interprète, elle dit bah oui, évidemment, il est en ce moment séparé de sa femme parce qu'il a une femme actrice, donc elle imagine qu'une femme actrice c'est glamour, enfin voilà, ce jeune homme, et bien il est seul, ben il rencontre une autre française, et bien évidemment ça lui fait plaisir de parler français. Elle donne toujours une interprétation, elle pense pas du tout que c'est parce qu'il pourrait la désirer, elle ne l'imagine pas, d'où la surprise lorsque, lors des promenades qu'ils font, ils se voient plusieurs fois, et lors d'une promenade il l'embrasse, et c'est une surprise totale pour elle. Et c'est là que venait le désir. C'est à partir de ce baiser qu'elle n'avait pas anticipé et qui, tout à coup, lui...
Il y a un petit côté Madame Bovary, après le premier baiser échangé avec le romancier à New York, s'appelle Sébastien Belair. Il y a un petit côté Madame Bovary chez Ève, comme si elle disait « Ah, j'ai un amant ».
Oui, elle en est extrêmement surprise. Parce que finalement... mais surprise, et puis après, elle va en avoir très très peur. D'abord, il y a une surprise. Elle se dit, voilà, j'ai un amant. C'était pas dans son trajet de vie, elle aime Paul, elle adore ses filles, elle n'a aucune intention de se séparer, mais elle a un amant, elle le voit quand même plus au début. Voilà, c'est normal d'avoir un adultère une fois dans sa vie, c'est pas un drame, ça arrive à tout le monde. Et en plus, avec Paul, il s'était posé la question au début de leur mariage, s'autorise-t-il à l'infidélité ou pas? Et elle avait besoin de le savoir, et il lui dit, écoute, si ça arrive, je veux pas le savoir. Donc, quelque part, il a accepté l'idée que ça pouvait arriver.
Alors
donc
que elle avait été beaucoup plus violente, parce qu'elle avait dit à Paul, si j'apprends que tu me trompes, pardonnez-moi, c'est dans le roman, je te coupe les couilles. Voilà. Donc, elle est quand même violente, hein, castratrice.
C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, elle n'a pas l'impression qu'elle lui fait du tort. Et puis, le problème de toute relation comme ça, qui arrive dans votre vie quand vous êtes marié, quand vous êtes dans une relation à long terme, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et le désir est une irruption qui parfois peut être dangereuse, parce que si on n'oublie pas l'homme du désir, eh bien, voilà, il y a le risque qu'une nouvelle relation commence. C'est que ça soit le début de la fin de la relation qu'on avait. Donc elle court un risque, elle court un risque, Eve. Et pas, contrairement à Clarisse, alors qu'elle court des risques et qu'elle frôle la catastrophe, elle retombe toujours sur ses pieds. Et là, par chance, puisque sa fille tombe malade. Voilà.
Oui, et on ne raconte pas la voilà. suite. On marque une dernière pause musicale et puis on parlera un petit peu de l'écriture, parce qu'il y a un romancier et Clarisse aussi va participer à un atelier d'écriture à Paris. On en parle après un nouvel intermède musical et on retrouve notre invitée Catherine Cusset juste après.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my hearts.
edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La définition du bonheur, Catherine Cuisset qui nous accompagne et nous en sommes très heureux, c'est le titre de son dernier roman paru chez Gallimard. Bien sûr, il y a plein d'aspects absolument passionnant dans ce roman qui m'a beaucoup plu. Je trouve que les messieurs doivent lire ce roman. Les femmes seront bien évidemment très intéressées, mais je pense que pour les hommes, c'est très intéressant.
C'est ce qu'a dit aussi Bernard Pivot
dans un
article dans le journal du dimanche.
L'écriture est très importante parce que finalement, que ce soit le premier mari de Clarisse, le Belge, Hendrik, voulait devenir grand reporter. Bon, il n'en sera rien parce que de toute façon, c'est tout de même un gros paresseux qui préfère regarder les matchs de foot à la télévision avec ses enfants plutôt que de chercher du travail. Parce que Clarisse, c'est quand même elle, tirant un peu le diable par la queue, c'est elle qui se débrouille
pour faire vivre
la famille. Il y a Paul, bien sûr, le mari de Ève, bon, qui au départ aux États-Unis prend le métier qu'il peut faire, mais ensuite, acceptant un salaire moindre, devient journaliste
pour le
New York Times. Bon, on peut comprendre. Et puis, il y a ce fameux Français qui se trouve également à New York, Sébastien Belair.
Vous avez raison, tous les hommes écrivent.
Ils écrivent tous. Et oui.
Non, François est un artiste quand même.
Alors, il y a François, effectivement, l'artiste, arachnophile. On n'a pas parlé de l'araignée. L'écriture pour Clarisse va être une béquille, une béquille pour sa vie. Et puis à partir du moment où elle participe aux ateliers d'écriture animés à Paris, parce qu'on retrouve Sébastien Belair, on raconte pas tout. Quand elle prend le risque finalement de l'autofiction, de raconter sa liaison avec ce jeune amant haïtien de 24 ans, mais en changeant les prénoms et le contexte, quand elle lit l'histoire, les autres écrivain amateur lui dicte presque la fin. Et c'est terrible.
C'est une fin terrible, quoi. Lui disent en effet qu'elle n'a pas le choix, que dans une relation entre une femme de 60 ans et un jeune homme de 25 ans, ça ne peut être qu'une catastrophe pour la femme. Donc si elle écrit une fin heureuse, ça n'est pas possible. Et donc elle se retrouve face à ce miroir de sa propre situation qui lui renvoie un reflet d'elle entièrement pathétique, et elle renonce à ce moment-là à l'écriture. Et c'est vrai que c'est important pour le personnage de Clarisse, parce qu'en fait au départ elle voulait être écrivain, elle a commencé des études de lettres à la Sorbonne, elle est partie voyager, c'est un esprit libre, mais elle s'est retrouvée coincée très tôt dans la vie, mère à 22 ans, divorcée 10 ans plus tard avec 3 enfants à charge. Quand elle a été, au début c'est elle qui nourrissait la famille, après elle s'est retrouvée à devoir éduquer ses 3 fils toute seule, elle n'a jamais pu écrire. Elle n'a jamais pu. Et donc, elle recommence bien plus tard, quand ses fils sont partis. Puis, il y a ce groupe d'écriture qui est comme une claque, qui lui ferme la porte de l'écriture. Mais ce n'est pas terminé. Et je ne veux pas parler de la fin du roman.
Ah non.
Mais j'ai quand même fait don à Clarisse de quelque chose. Quoi.
Mais ce qui est drôle, c'est
que violente.
Des ateliers d'écriture, vous écrivez, c'était l'équivalent pour écrivain d'une session d'alcoolique anonyme. C'est pas drôle. Alors, j'ai appris dans le roman, on ne raconte pas trop, que finalement, le célèbre Noël Godin, le Belge entarteur, sa première victime a été Marguerite Duras.
Ah oui, j'ai découvert aussi, vous voyez, fait des recherches.
C'était en 69 donc.
Vous vous rendez compte, j'ai lu un livre sur lui en fait, puisque Clarisse, j'ai eu cette idée qu'elle allait entarter quelqu'un.
Mais c'est très drôle.
C'est une scène drôle.
C'est formidable.
Mais qui a du sens dans le roman.
Oui.
Et du coup, en effet, il n'y a pas seulement Bernard-Henri Lévy, il y avait Marguerite Duras en 69.
La violence pâtissière de Noël
Godin. Et c'est vrai qu'aussi, vous voyez, cette ambiguïté, cette ambivalence qui touche le personnage de Clarisse, dont je vous disais qu'elle a la force et la faiblesse, touche aussi mes personnages d'écrivains, puisque Sébastien Belair, là, l'écrivain à succès, qui est ce jeune écrivain à succès, qui dirige ensuite ce groupe d'écriture, qui a écrit un roman inspiré par, par l'histoire d'Ève. Vous avez vu comment j'ai voulu après le placer dans la polémique qui a été celle de l'an dernier, en fait, après le livre de la publication du livre de Vanessa Springora sur le consentement. Et il écrit un livre où il y a une histoire d'amour entre une jeune fille de 14 ans et un homme de 40. Et voilà, donc tout est un peu... je pense que finalement, pour moi, le roman, c'est un peu l'art de la nuance. Et qu'on ne doit pas juste simplifier les choses et qu'il faut arriver à dire une chose et son contraire. Hein. Tout est contenu à l'intérieur d'une idée, l'idée et son contraire.
Alors on termine sur ce romancier Sébastien Belair, je vous cite, puisque s'intéressant à Clarisse et à l'écriture de Clarisse, un écrivain célèbre s'intéressait à elle, pas à ses seins, mais à son écriture, à ce qu'il y avait en elle de plus intime. La définition du bonheur, merci Catherine Cusset, c'est le titre donc de votre dernier roman paru chez Gallimard. Merci d'avoir été à bord du wagon livre, l'émission littéraire de Radion.
Merci beaucoup pour votre invitation, j'étais ravie de cette interview.
Merci Catherine Cusset.